France Culture.
À voix nue, Sylvie Gasteau,
Jacques Lifil, metteur en songe.
Troisième volet, je vous construirai une ville avec des loques, moi. Tu peux peut-être continuer le poème ?
Oui, oui, Michel Bouquet qui dit « Vous construirez sans plan et sans ciment un édifice que vous ne détruirez pas et qu'une espèce d'évidence écumante soutiendra et gonflera et qui viendra vous braire au nez gelé de tous vos parthénons, vos arts arabes et de vos ming. » Oui.
Alors hier, on était dans la rue et aujourd'hui, nous allons dans une ville qui n'existait pas encore, Saint-Quentin-en-Yvelines. Parce que avant de vous emparer d'une ville avec son histoire, vous vous êtes emparé, comme les ancêtres d'Asté, Gignoux, vous, le théâtre de l'Unité, vous vous êtes emparé d'un territoire vierge, d'une vague agglomération regroupant des villes sans grande connivence. Vous avez fédéré tout ce territoire. Alors, Jacques, comment vous vous y êtes pris ?
Ouh là là ! Ça, c'est une sacrée... Une sacrée question. Eh ben, oui, on est arrivé en 78 dans cette ville et dans notre théâtre, on utilise des termes militaires. C'est très bizarre, hein. Donc c'est une troupe de théâtre, hein. C'est une conquête, c'est un combat, c'est une occupation des lieux, c'est une électrification par la culture, etc. Et on voulait aller partout, voilà. Et on a une sorte d'amour des gens qui nous portait, de dire tout le monde a droit à la culture, il faut qu'on la mène partout, partout où on peut. On a commencé tout de suite par une sorte de grande fête. C'est la Péricole, non ? On a commencé comme ça, avec un chœur local et tout ça, avec marché péruvien...
La Péricole, c'est une pièce à la base, enfin une pièce lyrique d'Offenbach, un opéra bouffe.
Oui, mais on avait envie de séduire le public, voilà. Parce que tout le problème, ça s'appelle le populaire, c'est un gros problème. Nous, on est nés dans le berceau de Jean Villard, qui disait, répondre à la question « Pourquoi fait-on du théâtre ?», c'est répondre à la question « Pour qui fait-on du théâtre ?». Et donc, nous, on voulait faire du théâtre pour les gens. Hein. Et dans cette ville, effectivement... Il y avait des gens, hein, des gens de toutes sortes, voilà, et ça nous a beaucoup plu d'être les pionniers dans cette ville et d'essayer d'avoir ce qu'on appelait un fichier affectif. Fichier affectif, c'est pas un fichier où tu notes les noms pour avoir des abonnés, des adresses, c'est des gens que tu embrasses sur la commission de la bouche. On aimait beaucoup avoir cette tendresse pour les gens, et peu à peu, on montait en tendresse, et on avait de plus en plus de monde, hein. Parce que on était porté, je sais pas ce que c'est, je l'ai moins maintenant. L'amour des gens nous portait vraiment. Là. Et donc on faisait une pièce que nous on n'aurait pas fait. On n'a pas voulu monter un Brest ou je sais pas quoi. On a monté vraiment la Péricole qui était vraiment sympathique, Offenbach, joyeux, etc. Aucun message politique là-dedans, rien, juste le plaisir comme ça.
Et c'était une réussite ?
Ben oui, il y a eu du monde. Mais c'était un drame plutôt qu'une réussite, puisque à la suite de ça, le directeur du Théâtre Mogador a dit « on a envie de vous prendre ». Alors pour moi, c'était une grande victoire, aller à Paris, jouer à la Péricole, Théâtre Mogador, et c'était un fiasco total. On s'est fait, voilà, ne parlons pas de ça.
C'était quand même un théâtre qui s'adressait non pas à un public, mais à une population.
Oui, voilà.
C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché à Paris.
Oui, exactement. Non, oui, c'est ça s'appelle l'implantation. Voilà, d'un seul coup, infusion, immersion. Enfin, il y a plein de mots là-dedans, hein, mais surtout, on aimait connaître les gens, on aimait connaître leur vie. Hein. Mes enfants grandissaient là, tu vois, et tout ça. Hein. On aimait le soir. On disait le seul endroit de la ville nouvelle qui est beau, c'est à l'intérieur des maisons. Comme ça, on la voit pas la ville nouvelle, parce que c'est vraiment très très laid, hein.
Oui.
C'était très très laid et très très hostile. Et donc on avait beaucoup d'alliés, on était capable. À l'époque, il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas tout ça. On était Tu vois, par exemple, quand on a fait les adieux à Giscard en 81, hein, c'était tout de même un grand moment, le 81, une grande bascule. Et donc, les adieux à Giscard, en deux jours, on a regroupé 400 personnes qui sont venues avec leur pique-nique dans la salle de la Maison pour tous. Voilà, on chantait, voilà, c'était la fête, les adieux à Giscard. C'était notre capacité de regrouper des gens par des téléphones arabes, par des chaînes. Tout s'enchaînait, quoi. On avait vraiment une toile d'araignée.
J'aime bien aussi le terme infusion parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain d'infuser une ville.
Oui, non, pour la première fois, on restait longtemps, oui. On connaissait vraiment les gens, les familles et tout. Mais ça va nous poursuivre. C'est-à-dire qu'en fait, le public pour nous, ça n'existe plus. Maintenant, on va avoir des disciples. On est comme des sortes de religieux. On est comme des moines défricheurs. Et on attire des fidèles. Hein, toujours les mêmes, d'ailleurs. Hein. Après, je me plains que le théâtre, c'est toujours les mêmes. D'habitude, je plains toujours les mêmes, mais les autres. Mais là, nous, c'est vraiment des gens qui nous suivent, des disciples, des gens qui nous aiment. Leurs enfants font du théâtre avec nous. On a des ateliers dans toute la ville. On monte des spectacles immenses. Peut-être que je vais te parler du plus bel âge de la vie, non ?
Alors, le plus bel âge de la vie, j'y étais.
Oui, ben voilà.
Dans les années 80, j'avais 19 ans. J'ai entendu parler de vous assez rapidement, avec le carnaval aussi des ténèbres que vous allez créer, qui va vraiment fédérer tout le monde pendant une année. Ouais. On en entendra parler sans vous connaître. J'ai dans ma classe des élèves qui vont participer au plus bel âge de la vie. Et ça va d'un seul coup transformer moi-même ma vie et m'orienter vers l'enregistrement, la parole des gens, de voir le fictionnel dans le documentaire. Donc oui, ça va nous donner aussi le droit d'oser, qui est important.
Et oui, on entraînait plein de jeunes dans notre sillage. Claude Accard avait son atelier de scénographie à la ferme du Mousseau, à Élancourt. Il engageait tous les gosses à casquettes.
Les loulous.
Les loulous, les zouzous, les je sais pas quoi. Il leur apprenait à construire des décors. On fait un bourgeois gentilhomme un peu festif et il fabrique des costumes en carton, des costumes en cuir. Il y a plein de jeunes qui nous entourent. Ils veulent plus nous quitter. Il faut qu'on invente sans arrêt des choses pour eux. C'est là qu'on invente le Carnaval des Ténèbres ou plein d'associations ont le droit de participer parce qu'on fait un concours des bandes comme ça se fait en Amérique du Sud, etc. Tous les garages se transforment en lieux où les gens inventent, fabriquent. Se prépare au grand défilé des bandes et à la suite de ça, l'anecdote qui démarre, c'est qu'on est dans une maison pour tous, un lieu social, disons, et que le personnel ne veut plus travailler parce que les jeunes se droguent et qu'on trouve des seringues dans les toilettes, voilà. Et que les gens commencent à avoir peur dans la maison. On leur dit, mais n'ayez pas peur, on va s'en occuper. Et on décide avec l'animateur jeune de la maison, qui s'appelait Jean Djemad, qui était en même temps médecin toxicomane, d'entraîner tous les jeunes dans un immense spectacle. Et donc, on fait des ateliers dans toute la ville. Et on entraîne 80 jeunes, dont 50 lycéens et 30 loulous, 30 loubards. Hein. Même le plus grand dealer de la ville, qui était là, d'ailleurs.
De la ville de Trappes.
De la ville de Trappes. Ça devient complètement fou. Et on se dit qu'on va jouer dans le dépôt de locomotive abandonné. Il y a des ateliers dans toute la ville. On se traîne avec ceux qui brûlent les voitures, toi, la nuit. Hein. On les a tous dans nos... On discute, il y en a qui dorment dans les halls d'immeubles, il n'y a pas de maison. Le dépôt, il est à l'abandon, le dépôt de locomotive de Trappes, il est à l'abandon. On va le nettoyer, on va faire des cascades de voitures, on va faire rentrer un train, on veut faire une arrivée de la presse en hélicoptère. Malheureusement, il y a un congrès, un G20 à Versailles, les hélicoptères n'ont pas le droit de voler. On avait fait la répétition de l'arrivée, de mon arrivée en hélicoptère pour monter la pièce et tout, c'était beau ça. Et on monte un immense spectacle qui va durer, on va le jouer trois fois. Et là, le tout Paris accourt, on est en 82. Il y a 81 qui vient de passer par là et on a des acteurs, Michel Piccoli ou je sais pas qui. On a plein de gens un peu célèbres. On se fait une page dans Télérama. Hein. L'anecdote, c'est que Fabienne Pascaud, qui est encore connue aujourd'hui, quand elle vient rendre visite à nos petits loubards, Il y en a un, elle veut l'interroger, il y en a un qui dit, moi, tu sais ce que j'ai envie de faire? Te pisser dessus. Enfin, Ben Pascoe est absolument ravi. C'est vraiment exotique, cette interview, le garçon qui veut lui pisser dessus. Et nous, on croit, à l'époque, on croit que le socialisme est arrivé en France et qu'on est en train d'inventer un nouveau théâtre de légende, un théâtre épique qui met en jeu toute la société, toute la jeunesse, etc. On dédie à un jeune d'une MJC qui s'est pendu. C'était même assez prodigieux, ce spectacle. Hein. Ça a duré que 3 jours, mais il y avait un magicien, Nicolas Frise, il y avait... voilà. Et puis les ateliers, ça faisait que... on montait des ateliers dans toute la ville, on leur disait, attention, tout le monde ne va pas être pris. Hein. Alors il y avait une émulation, tout le monde voulait participer à ce spectacle. Et donc, il y avait 12 comédiens professionnels et 70 amateurs de toutes sortes, avec des scènes tout de même toujours un peu osées, puisque ma fille, qui avait à l'époque 14 ans, hein, parce que je n'osais pas demander ça à une fille d'une autre famille, devait faire une fellation à un routier dans son camion, hein, ma pauvre petite Dana, mais t'inquiète pas, etc. C'était pas bisounours, le spectacle. Hein. Il y avait des violences, il y avait des bagarres de loubards, il y avait tout ce qu'on voulait. Ça racontait vraiment toute la jeunesse de l'époque.
Bah, il y avait le plus grand dealer de Chicago, connu dans toute la région, qui arrivait en moto.
Oui, le lendemain, il était arrêté. Oui, on ne savait pas, nous, il était très gentil. On ne savait pas tout ça. On a gardé des relations encore avec plein de jeunes. C'était une énorme expérience qui était... Moi, j'étais... Second seulement, c'est Hervé qui dirigeait. Moi, je ne sais pas diriger les grands groupes comme ça. Elle a une autorité démente. Elle serait là, elle se vanterait d'avoir dirigé un train depuis la gare Montparnasse, un train de marchandises, pour qu'il rentre à l'heure donnée dans une des scènes où il y avait un train de marchandises qui rentrait dans le dépôt de locomotive et que tous les jeunes attaquaient comme des Indiens. C'était une scène, voilà. C'était pas directement politique, mais ça l'était tout de même, parce que c'était la jeunesse fiévreuse.
À cette époque, vous n'avez toujours pas de lieu. Et Ariane Mnouchkine disait que pour une troupe, avoir une maison, c'était le miracle nécessaire. Et ce miracle, il a eu lieu pour vous en 91, à Montbéliard. On vous nomme, Hervé et toi, co-directeur d'une scène nationale que vous allez rebaptiser Centre d'art et de plaisanterie. Et vous voici dans une ville chargée en histoire, un fief industriel, Peugeot, dans une région, la Franche-Comté, où naquit l'utopiste Charles Fourier, où œuvra l'architecte Nicolas Ledoux du Second Empire. Et donc tout semblait déjà là, un hôtel, un théâtre à l'italienne, une grande maison pour recevoir des artistes, ça c'est formidable. Il ne suffisait donc plus pour vous qu'à mettre tout ça sans dessous dessus.
Ah oui, c'est une expérience magnifique parce qu'on passait d'une troupe qui n'avait pas d'argent avec une troupe qui avait beaucoup d'argent. Voilà. Je me souviens, donc on se met à avoir un personnel de 30 personnes et... Je disais, chaque réunion coûte 3000 euros. Oh là là, même, comment on dépense notre argent? Il fallait être... Non, on était enivrés. C'est vrai que ça nous enivrait d'être directeurs complètement. Et on disait, nous, il s'agit pas de remplir un théâtre, il s'agit de remplir la ville de théâtre. On disait, c'est le mot d'ordre, ne pas remplir le théâtre de Montbéliard, qui avait 400 places, mais remplir Montbéliard de théâtre. Et on s'est mis à faire du théâtre dans tous les sens, sans arrêt. On était... J'avais un appétit quasiment glorieux, sauf que ça épuisait les gens. Il y a des gens qui rentraient dans mon bureau et qui disaient « On veut voir grandir nos enfants, s'il vous plaît. » Parce que moi, je voulais qu'il y ait sans arrêt des trucs qui se passent. Je voulais toucher toute la ville. Voilà. Je suis malheureux de voir que dans les théâtres, il y a 4000 abonnés, 5000 abonnés, mais si je demande aux gens dans la ville, ils ne savent même pas où c'est le théâtre. Voilà. Moi, je voulais un théâtre qui touche toute la ville. Et ça, on va le réussir à Montbéliard avec une folie furieuse qui nous habite. On est trois, on est Hervé, Claude et moi. Et on va foncer comme des malades.
Alors ce petit hôtel particulier, là, l'hôtel Sponeck, vous allez créer une monnaie.
Le Sponeck, oui.
Le Sponeck.
Oui, l'hôtel s'appelait l'hôtel de Sponeck. Et dans notre projet, là, pour être directeur de scène nationale, on avait dit qu'on allait travailler sur l'hôtellerie, que... L'hôtellerie, ça nous intéressait beaucoup, que le café, il y aurait toujours du chocolat avec, qu'on pourrait manger, qu'on pourrait, que ça serait un lieu de vie, tout ça. Enfin voilà, on avait tout un énorme projet qui faisait peur à la mairie d'ailleurs. Mais on était choisis. Hein. C'était une mairie de bien de droite, mais qui était intelligente, qui voyait l'intérêt de nous avoir. Elle, mairie de droite, qui disait, nous sommes l'ordre, mais nous laissons un peu le désordre occuper la ville, car les gens ont besoin d'un peu de désordre. Et quand on a dit au maire, on va s'appeler Centre d'art et de plaisanterie en honneur à Dubuffet, alors que les employés de la culture ils disaient, on peut pas, ça veut rien dire, Centre d'art et de plaisanterie, alors que c'est un lieu de culture. On disait, mais non, c'est Dubuffet, Jean Dubuffet, l'art brut, l'art n'est qu'une grande plaisanterie. Et le maire, par contre, il a dit, mais moi, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que nous, hommes politiques, nous sommes trop sérieux et que ça nous fera du bien, un peu de plaisanterie dans nos vies. Voilà. Il a accepté, les habitants ont accepté. On faisait pas que de la plaisanterie dans ce centre d'art et de plaisanterie, mais tout de même beaucoup, beaucoup de farces. C'est là qu'on avait marqué sur le mur de la gare, en face de la gare, regardez la vie en farce. Centre d'art et de plaisanterie. Voilà.
Mais prendre l'art au sérieux.
Voilà. Mais très sérieux, puisque c'est là qu'on commençait à vraiment avoir le rêve d'avoir un public avec des femmes de ménage et des profs de fac. Nous, l'idée, c'était d'avoir un public mixte, c'est de plaire aux deux, de pas être trop démagogique, pas trop démago, mais un petit peu pour plaire aux gens, hein, mais un petit peu haut de gamme pour plaire aux intellos, voilà. C'est très dur. Très peu de gens y arrivent à ça. Hein.
Et vous êtes fondu aussi dans l'histoire et la particularité du territoire, puisque c'est quand même le fief Peugeot.
Oui.
Et là, j'ai le souvenir du Grand Parvis, oui. Où il y avait au pays des machineries.
Oui. Ah ben oui, on a choisi Montbéliard à cause de Peugeot, parce que notre décorateur Claude disait, avec les retraités Peugeot, on va pouvoir faire des machines. C'est tous des gens formidables qui bricolent, et on a fait une exposition fabuleuse. Ça s'appelait quand les machineries au pays de Montbéliard. Et tous les habitants pouvaient nous faire des machines. Même l'armée avait participé. Elle avait fabriqué une machine, on mettait ses pouces dedans et ça tournait tout seul. Machine à se tourner les pouces, vous voyez. Il y avait plein de machines très très drôles.
Moi je me souviens d'une machine, par exemple des maternelles, qui avaient fait une machine à laver le monde.
Oui.
Il y avait un globe dans
Une blanchisseuse.
Dans une blanchisseuse.
Oui, c'était une invention formidable, là, que c'est venu comme ça, en parlant aux gens, hein. En voyant tout ce qui bricolait partout.
Et en même temps, il y avait des grands artistes qui venaient.
Ah ben, on a toujours travaillé, nous, sur le mélange amateur-professionnel, toujours.
Parce que toi, t'es quand même très sensible aux machines.
Oui.
Tu as eu une révélation avec Tinguely, le cyclope.
Oui, voilà.
Donc ça a continué, il y avait une logique même par rapport
sûr,
à la Deutsche
Theater. Oui, bien sûr, on a invité Boltanski et tout ça. Oui, j'ai essayé d'inviter les grandes célébrités de la peinture et de la poésie moderne, comme dit Rimbaud. Lui, il les aimait pas, les grandes célébrités, mais j'essayais d'en avoir, c'est pour se légitimer un peu.
Ça stimule aussi.
Bien sûr.
Ça crée une émulation.
Bien sûr.
Mais dans cette ville, il fallait aussi transmettre. Et donc, est-ce que c'est là que vous avez créé les ruches?
Non, c'était déjà à 50 ans d'Yvelines. On les avait commencé à 50 ans d'Yvelines, à la Élancourt. Et on a continué à Montbéliard, et on a continué à Audincourt. Oui, les stages de théâtre m'emmerdaient follement, tu sais, 12 personnes, toujours 15 personnes. Et donc j'ai voulu rassembler plein de disciplines à la fois, faire un stage de théâtre avec 80 personnes, 80 à 100 personnes. Donc on va dans différents ateliers, après ça mange ensemble, ça joue ensemble, après les ateliers se rencontrent, etc. Il y a des ateliers de toutes sortes, même ateliers de striptease, ateliers de rap, ateliers de chant vocal, ateliers de polyphonie, ateliers, toutes sortes d'ateliers. C'est toute une ambiance, les ruches. C'est un moment rituel de l'année où pendant une semaine, on rencontre plein de monde. Et d'ailleurs, tous nos spectacles viennent souvent de là. On fait nos essais, on essaye des trucs. Par exemple, le spectacle La Nuit Unique, un spectacle qui dure toute la nuit, et ben, je l'ai essayé dans une de ces ruches. On a pris un salon du château et on a invité le public toute une nuit à faire une sorte de veillée et le public était couché et pouvait dormir. Sachant qu'on regarde mieux les spectacles en dormant qu'en les regardant. Voilà, c'était une théorie sur le sommeil. Mais les mauvais sommeils et les bons sommeils. Voilà. Voilà.
Si c'était toi qui avais écrit aussi que le sommeil au théâtre était une opinion.
Oui. En fait, c'est Victor Hugo qui l'a écrit.
Oh là là.
Je m'excuse, là, j'ai carrément repris Victor Hugo. Ben oui, j'ai eu une histoire dans un théâtre grave, c'est que je me suis endormi, mais j'étais au premier rang, donc j'ai croulé carrément sur le plateau, donc sur les pieds du comédien, voilà. Et donc, quand je sors, le comédien vient me voir, et dit, en plus, vous vous appelez Jacques Lifshin, et vous êtes vraiment insultant et injurieux, vous êtes endormi sur mes pieds, et même en bougeant mes pieds, j'arrivais absolument pas à vous réveiller. Et je trouve ça scandaleux, parce que tout le monde vous a vu, et encore vous seriez quelqu'un d'inconnu. Et j'ai dit, mais c'est pas de ma faute, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Moi, dès que le théâtre est pas vivant, je m'endors immédiatement. C'est que vous jouiez mal. Je m'excuse, c'est pas de ma faute, c'est de la vôtre. Et je culpabilise pas du tout de dormir. En plus, si vous jouiez bien, vous voyez qu'un spectateur s'endort, vous dites, oh là là, mon Dieu, je dois jouer mal, il faut vite que je redresse mon jeu, que je le fasse un peu plus vivant. Donc c'est pas de ma faute et j'ai pas honte du tout de dormir au théâtre, voilà. Mais en fait, de temps en temps, il y a des sommeils agréables au théâtre. Il y a des moments, t'es sur un bateau, quoi. C'est plutôt le sommeil du bateau, c'est agréable. Tu te laisses bercer par l'imperceptible roulis du port entre les pots de fleurs et les gargoulettes rafraîchissantes. Et il y a des pièces en dehors et qui nous plaisent tout de même, hein. Ah oui, on invente, il y avait un des slogans qui s'appelle Invente ou je te dévore, qui est un slogan de Nicolas Ledoux.
L'architecte du Second Empire.
Et nous, on l'a beaucoup appliqué, Invente ou je te dévore. On dit, si on n'a pas de nouvelles inventions, ils vont nous bouffer. Et on a toujours inventé sans arrêt des nouvelles choses.
Et qu'est-ce que t'attends d'un comédien?
D'un comédien, j'attends qu'il aime gagner le public, qu'il a la rage de jouer, quel que soit le temps. J'attends des comédiens qui ne se plaignent pas quand il pleut, qu'il a les pieds dans la boue. J'attends des comédiens qui aient des idées sur la société, sur la vie, sur son rôle, et qui m'apportent beaucoup de choses. Disons, au Théâtre de l'Unité, le comédien, c'est pas quelqu'un, je dis, tu lèves le bras, tu avances de trois pas, non, il me fait des propositions. Et je dis, c'est bon, ça, c'est bon, c'est bien, non, c'est bien ce que t'as proposé. Mais c'est jamais moi qui propose. Je vois des metteurs en scène qui sont en train de régler les battements de cils. Après, je comprends pourquoi j'y crois pas, hein. Souvent, au théâtre, tu sais, c'est la vieille phrase de Stanislavski, qui disait à ses comédiens, je te crois pas, je te chasse, hein. La plupart du temps, dès que commence la pièce, je crois pas la personne qui me parle. Donc le comédien, je veux le croire et je veux qu'il ait pas peur de me parler de sa blessure intime, de dire pourquoi il fait du théâtre, pourquoi il est là. Moi, j'aime bien les gens cassés, j'aime bien les gens fissurés, j'aime bien les malades, en fait. Pas les malades, mais les gens hypersensibles, les gens, comment on appelle ça, écorchés vifs, voilà. Alors, je leur dis, tu mouilles le rôle de toi-même, hein. Il faut que ça soit entre toi et le rôle, mais toi, tu dois y être, voilà. Moi, j'en ai marre que les gens me racontent des contes complètement inodores, incolores, qui me disent rien du tout. Leur vie est 10 fois plus intéressante que tous ces contes qu'ils inventent ou que des auteurs inventent. Tu vois, j'aime même pas les auteurs, t'imagines? Par exemple, Shakespeare, à mon avis, il n'existe pas et Molière n'existe pas. C'est des compagnies. Moi, je vois à quel point les comédiens de Molière, ils ont apporté dans le spectacle. Moi, je le sais bien. Je sais bien que Maître Jacques, quand il présente à l'avare le repas, je sais bien que c'est le comédien qui a amené un livre de cuisine. Tu te rends compte que j'ai retrouvé une grande page. Tu sais, quand Maître Jacques, il développe le menu qu'il va faire, hein, eh bien, tu le retrouves dans un livre de cuisine du 17e. Exactement le même menu, il est recopié. Et quand tu rentres dans Molière, dans Tchekhov, tu trouves plein de choses comme ça. Tchekhov, il sait pour qui il écrit aussi, c'est très important. Tu vas me dire, mais Tchekhov, il n'est pas collectif. Mais si, quelque part, il est collectif, parce qu'il est sans arrêt avec Stanislavski, il discute les deux, il a une femme dont il est amoureux, donc il raconte, et puis il raconte sans arrêt ses propres histoires. Il est dans tous les personnages.
Invente ou je te dévore. Alors Jacques, comment on transmet de l'inimitable quand on est soi-même inimitable?
Mais nous, on n'est pas des profs. On fait de la capillarité. Ça s'appelle, on plonge les gens dans des atmosphères, des univers, et ils changent d'eux-mêmes. C'est pas on va vous transformer, hein, c'est pas comme ça. Et on en sauve beaucoup, c'est ça que je voulais dire. C'est pas moi qui le dis. Non, il y en a que j'ai vu être sauvés, hein. J'en ai des gens qui sortaient de prison, qui devenaient constructeurs, c'est surtout avec notre Claude Accard, qui devenaient constructeurs, qui maintenant gagnent leur vie dans le cinéma, etc., qui étaient du gibier à prison, carrément, hein. À tel point qu'un jour, il fallait l'agglomération devait attribuer un poste aux pompiers. Il y a le pompier, le capitaine Saint-James, qui a dit en réunion d'agglomération, moi je préférais que vous donniez un poste au théâtre de l'unité, parce que nous nous ramassons les jeunes dans les halls d'immeubles, et eux, ils les sauvent. Vaut mieux faire de la prévention que du sauvetage. Voilà, c'est comme ça qu'on a eu le poste qui était occupé longtemps par notre Sylvie Lalaude. Elle s'appelait, qui restait longtemps avec nous. Mais comment dire, c'était pas notre but le social, c'était un dommage collatéral. Hein. C'est l'envie d'être tout de même avec beaucoup de jeunes, et puis les jeunes, tu fais même pas exprès de tu dis pas je vais te sauver, mais ils voient tous à un moment ils peuvent rentrer dans un monde qui leur plaît quoi, qui est pas surtout à Montbéliard où les jeunes ils ont que Peugeot comme avenir, et donc là ils étaient ravis d'être dans les ateliers de Claude où ils apprenaient la soudure ou ils faisaient des spectacles, ils apprenaient à voyager, etc. C'est dingue. Hein.
Jacques, que ce soit à Saint-Quentin, en Yvelines ou à Montbéliard, vous avez fédéré la population en créant d'immenses carnavals. Que ce soit le Réveillon des Boulons ou le Carnaval des Ténèbres. Ces événements étaient un repère de joie, de travail, de surprise, de liesse. Et c'était pas un public averti dans une salle de théâtre, c'était tout le monde qui était à la fête, car la fête était partout dans la ville.
Ben oui, je pouvais pas supporter de ne pas m'adresser à la ville tout entière. Et pour s'adresser à la ville tout entière, il fallait que les gens fabriquent avec nous des sortes de grands événements rassembleurs. Donc le meilleur qu'on ait eu, c'est en 99 à Montbéliard, on a fait 40 000 personnes. Mais le Carnaval des Ténèbres à 50 ans d'Yvelines, ce qui était bien, c'était interdit aux enfants. Ça excitait tout le monde, ça. On voulait surtout pas que ça soit un carnaval nunuche. Il fallait que ça soit un carnaval avec un peu de violence, avec un peu d'artistique, un peu, voilà, pas automatiquement du Mad Max, mais avec de la poésie, pas les carnavals pour enfants qui sont vraiment dégénérés quasiment dans toutes les villes, il y a ça. Voilà, c'était Carnaval des Ténèbres et les gens avaient peur.
Ah ben, je me souviens, j'y étais et j'ai vu Bartabas sur un cheval en train d'avaler un rat.
Voilà, exactement. C'était ça qui nous plaisait.
Donc demain, mille et une fêtes avec toi, Jacques.
Mais on a déjà commencé, ça n'arrête pas d'être la fête.
Ah non, la fête doit être dans un temps court.
D'accord.
À demain, Jacques.
À demain.
C'était À Voix Nue, cette semaine, avec Jacques Lifshin. Réalisation Anne Fleury, prise de son Johanna Gabrick, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Sylvie Gasteau, disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.